Vendredi ou la ville durable, épisode 4. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de Parole d'élu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le quatrième et dernier épisode de Vendredi ou la ville durable de l'année. Et pour bien conclure 2023, justement, nous avons décidé de nous intéresser dans l'heure à venir à une problématique essentielle pour les territoires. Je veux parler bien évidemment de la mobilité. Saviez-vous en effet qu'avec 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre, le transport est la première source d'émissions devant les bâtiments, l'agriculture et même l'industrie? Véritable pionnière dans le domaine, l'Eurométropole et la ville de Strasbourg ont fait de la mobilité l'axe majeur de ce mandat. Vélo, tramway, RER métropolitain, première coopérative d'autopartage, compte mobilité, gare 360, challenge au boulot à vélo, les initiatives sont nombreuses, permettant à la révolution des mobilités non seulement de se concrétiser, mais aussi d'accélérer. Mais sans plus tarder, direction le centre administratif, Parc de l'Étoile, où nous attend la présidente de l'Eurométropole, Madame Pia Imps. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît ?
Je suis Pia Imps, je suis la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et je suis également maire de Holzheim, c'est une commune de 3800 habitants. L'Eurométropole de Strasbourg, c'est plus de 500 000 habitants et 33 communes qui font partie de cet établissement public intercommunal.
Alors, on est ici pour parler mobilité. J'ai cru comprendre que la mobilité, les enjeux de mobilité étaient un axe fort de ce mandat. Est-ce que c'est le cas et quelle forme cela prend? Comment ça se concrétise?
Oui, je vous confirme que la politique des mobilités est le marqueur de ce mandat 2020-2026. J'y suis d'autant plus attachée qu'étant maire d'une petite commune, je tiens à garantir la mobilité à tout à chacun et offrir des outils de mobilité les plus pertinents, selon qu'on est dans la grande ville de Strasbourg, selon qu'on est en première couronne de Strasbourg ou en seconde couronne. Nous travaillons même sur le ferroviaire, au-delà du périmètre de la métropole et pour l'ensemble du Bas-Rhin. Donc, je peux vous dire que dès ce bilan du mi-mandat que je suis en train de terminer, tous les outils de mobilité sont activés pour offrir plus de mobilité décarbonée, des alternatives à la voiture si besoin. Dans ce contexte où nous avons à traiter le changement climatique, la hausse du coût de l'énergie et donc du coût de l'essence, trouver des alternatives à la voiture si besoin, si nécessaire. Nous sommes aussi un territoire ZFE, zone à faible émission, et donc on se doit de proposer des alternatives. Plus cher, mais aussi plus cadencé, plus efficace.
Quand vous dites plus cher, c'est...
Pardon, au sens, c'est la voiture qui est plus chère. Donc d'accord. Aujourd'hui, les transports publics sont beaucoup plus accessibles. Nous avons aussi, à la métropole de Strasbourg, décidé la gratuité des transports pour tous les jeunes de moins de 18 ans sur l'ensemble du territoire métropolitain.
J'ai beaucoup entendu parler de votre collectivité il y a quelques mois, quand le président reprenait votre exemple sur ce qui était le RER métropolitain. C'était un projet qui ne s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque. Quels étaient les enjeux pour vous et quelles étaient un peu peut-être les difficultés que vous avez dû braver, puisque comme tout pionnier, on a sans doute des contraintes que les autres n'auront peut-être pas, ou un peu moins.
Si, il s'appelle toujours RER métropolitain. Il existe en sa version ferroviaire. Nous insistons aussi sur le volet routier de ce REM et sur le volet européen. On dit REM, c'est aussi RER métropolitain européen. Et je peux vous détailler ces trois volets. C'est un souhait de longue date que notre exécutif a réussi à rendre très concret, parce que nous avons aujourd'hui déjà plus 700 trains supplémentaires par semaine. Donc, vous voyez, le cadencement à la demi-heure, voire 15 minutes aux heures de pointe, sur le territoire de la métropole et au-delà, donc une véritable étoile ferroviaire. L'essentiel des trains se croise sur la gare de Strasbourg, bien sûr, mais avec des radiales entre Saverne et Célestat, pour vous indiquer que ce cadencement du train à l'image du RER parisien est une des réponses extrêmement attendues et qui est déjà à l'œuvre. La SNCF nous avait promis plus 800 trains supplémentaires par semaine, nous sommes à 700 et déjà très heureux de cela. La version routière du RER, donc travailler sur du 14 mois, des cars express également. Et enfin, le RER européen, c'est avoir gagné que le train Paris-Berlin passe par Strasbourg. C'est le cas en train de nuit et ce sera le cas d'ici 2-3 ans aussi en train de jour. C'est travailler avec les villes voisines de liaisons ferroviaires plus régulières, plus cadencées. Donc nous sommes la première métropole après Paris à avoir lancé ce RER en complet autofinancement métropole de Strasbourg et région Grand Est. En attendant les soutiens de l'État, l'État s'étant prononcé très favorablement à l'existence de RER dans 10 métropoles françaises, nous demandons maintenant le soutien de l'État.
Est-ce que vous avez vu concrètement des changements déjà dans les habitudes des habitants ?
Oui, je pars du principe qu'une offre beaucoup plus intéressante et efficace crée la demande. Je le crois, au moment où je le disais, la voiture est plus chère et la ville de Strasbourg a augmenté aussi le coût des stationnements en ville. Et donc on voit que des alternatives intéressantes existent. Je suis convaincue que lorsqu'on peut prendre le car ou le train sans regarder une tablette horaire, parce qu'on sait qu'il y en a toutes les demi-heures, voire tous les 15 minutes, ça peut être une alternative crédible. Je n'ai pas assez de recul pour vous dire que les comportements ont déjà changé.
Est-ce que l'expression de révolution de la mobilité, ça vous convient ?
En fait, ça me convient parce que ça montre que ce sont des grands changements sur l'ensemble des outils. Nous travaillons aussi le covoiturage, nous rénovons les gares pour en faire des pôles d'échange multimodaux. Je ne vous ai pas encore parlé des 100 millions d'euros investis sur les pistes cyclables. 3 lignes de tram supplémentaires, prolongement des lignes bus à haut niveau de service. Donc on voit bien que c'est une révolution, ce sont des changements profonds, avec un investissement d'1 milliard d'euros sur le mandat, 500 millions d'euros, sur tous les outils que je viens de vous décliner. Mon prédécesseur parlait du Grenelle des mobilités, ces outils étaient évoqués, notre exécutif les met en œuvre concrètement. Tout ce dont je vous parle fonctionne déjà, et nous sommes 3 ans après avoir pris en main l'exécutif. Donc, en l'espace de 3 ans, tous ces outils sont déjà opérationnels.
Je crois que l'année prochaine, vous allez aussi accueillir un événement important de la mobilité, qui a un rayonnement européen. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?
Cet événement Expo Mobility a toujours été un événement parisien, et c'est la première fois qu'il arrivera à Strasbourg en 2024, avec un grand nombre d'exposants. C'est une reconnaissance de ce que fait l'Eurométropole de Strasbourg sur ce sujet. Je peux vous dire aussi que des sénateurs japonais sont déjà passés nous s'intéresser à la façon dont nous transformons le territoire à travers une politique des mobilités. J'ai été interviewée à la télé allemande également. J'ai été invitée au Portugal pour en parler. Et donc je crois que notre volontarisme, si j'ose dire, sur ce sujet, eh bien, commence à être reconnu et peut inspirer d'autres territoires.
Vous venez de dire, est-ce que ces délégations qui viennent d'un peu partout et qui vous interviewent ont remarqué des choses qui étaient particulièrement innovantes et inspirantes pour elles en termes de mobilité ?
Oui, on nous a beaucoup interrogés sur le RER métropolitain, bien sûr. Et aussi une autre particularité qui inspire, le transport à la demande. Nous sommes la première métropole en France à avoir un transport à la demande que vous réservez donc au téléphone ou via une application. Et ce sont donc des minibus électriques qui permettent de relier une petite commune à une autre sans passer forcément par la ville-centre Strasbourg. Ils fonctionnent pour plus de 20 communes sur 33, répond à des vrais besoins et d'une très grande flexibilité. Je dis bien, c'est un TAD que vous pouvez donc réserver ou payer au prix d'un ticket de bus. Donc vous voyez à quel point on a là une offre, certains comparent cela à un Uber, mais à un prix d'un ticket de bus. Mais on ne vous cherche pas chez vous, mais à une station de bus. Et ce transport à la demande, suit des lignes qui ne sont pas les lignes officielles, puisque le bus officiel trace son chemin, il permet, encore une fois, de relier des communes entre elles sans aller sur des lignes principales. Il rend service à des personnes âgées, il rend service à des collégiens et il est très très plébiscité.
Merci beaucoup.
Merci.
Après ce premier entretien, poursuivons notre découverte de cette révolution des mobilités. Nous avons maintenant rendez-vous avec Sophie Dupressoir, conseillère municipale déléguée à la ville marchable et cyclable.
Bonjour.
Vous avez rendez-vous avec Madame Dupressoir?
Oui.
Je vais vous installer dans une petite salle à côté.
Salut,
ça va?
Ça va et toi?
Ça va, merci.
Eh ben, est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être vous présenter et justement nous redire cette délégation et ce que vous y mettez derrière?
Donc je suis conseillère municipale déléguée à ce qu'on appelle la ville marchable et cyclable. L'intention de cette délégation, c'est de développer ces modes de mobilité que sont la marche et le vélo, qu'on appelle des modes de déplacement actifs dans la ville, de continuer en fait le développement de ces modes qui ont été par le passé développés depuis très longtemps à Strasbourg. Donc c'est vraiment la poursuite, cette orientation qu'on observe à Strasbourg depuis à peu près les années 90, c'est l'arrivée du tramway dans le centre-ville et la piétonnisation qui a accompagné l'arrivée du tramway. Et donc c'est vrai que ça a été la première étape d'apaisement, je dirais, de la ville et du développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Ensuite, il y a eu des municipalités qui ont accéléré plus ou moins cette politique, mais nous depuis 2020, on a d'abord déclaré l'urgence climatique, ce qui était un acte fort en arrivant aux fonctions, qui était de dire le secteur des transports est un des émetteurs majeurs de gaz à effet de serre. Strasbourg est épinglé par la Cour de justice européenne pour la qualité de son air qui n'est pas aux normes. On a des problèmes encore de congestion dans la ville. Des espaces publics qui aujourd'hui sont déséquilibrés en faveur de la voiture alors que l'usage de la voiture continue à baisser et les modes de déplacement alternatifs à monter. Et donc tout ça nous incite à accélérer encore, à renforcer cette politique de développement des alternatives à la voiture. Il y a plusieurs axes pour faire une ville durable sur le plan des déplacements. C'est la question des aménagements. Donc de l'espace public, comment on répartit l'espace public, comment on aménage l'espace public pour faciliter tel usage de ces espaces publics. En gros, comment on sort d'une logique circulatoire pure, je fais un tuyau, une rue c'est un tuyau pour faire passer les voitures, à une logique de ville à vivre, de pouvoir développer d'autres fonctions des espaces publics que celles de la circulation, des fonctions de rencontre, des fonctions de rafraîchissement, de pause, etc., de fête, pourquoi pas. Donc ça, c'est la logique aménagement. Ensuite, on a effectivement à penser à tous les usages. Donc comment la marche devient attractive et agréable dans la ville. Et ça c'est une question de signalétique, comment on signale les bons itinéraires aux piétons, comment on leur fait voir que finalement c'est plus court à pied que ce qu'ils pensaient d'aller d'un point à un autre. Et puis ensuite, le troisième axe, c'est rendre attractif, sexy, promouvoir la marche. Là, ça passe par des événements, on organise des journées sans voiture, on fait des plans pour montrer que les points sont pas loin, les différents points d'attraction de la ville ne sont pas loin les uns des autres. Donc il faut penser usage aussi. Il s'agit pas juste d'élargir les trottoirs.
Pour revenir sur votre délégation, donc à la fois la marche et le vélo, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des enjeux de quotidien, de cohabitation?
C'est la marche et le vélo, mais aujourd'hui on pourrait presque y mettre les trottinettes par exemple, les engins de déplacement moteur personnalisés, les EDPM. Il se trouve que c'est pas des modes de déplacement actifs, mais une trottinette doit rouler sur une piste cyclable. Donc de fait, on a des questions de cohabitation qui se posent. Et donc moi je travaille aujourd'hui autant sur les trottinettes que sur le vélo et la marche à pied. Ceci dit, c'est très intéressant effectivement d'aborder les deux modes de déplacement ensemble, parce que on se rend compte que le succès du vélo a un peu son revers de la médaille, c'est-à-dire qu'effectivement des formes de conflits d'usage se développent hein, depuis quelques années à Strasbourg, du fait de l'explosion de la pratique du vélo. Et du fait que bah, finalement l'espace qui avait été réservé au vélo souvent est soit trop réduit, soit partagé avec le piéton. C'est-à-dire que pour ne pas prendre de la place à la voiture, historiquement, on a tracé des bandes cyclables sur les trottoirs, on a refusé de, voilà, parfois de prendre sur l'espace réservé à la voiture. Et donc ça crée beaucoup de situations qui ne sont pas accidentogènes au sens de la sécurité routière, mais qui créent beaucoup d'anxiété, d'inquiétude pour les piétons, notamment les plus fragiles. Donc, pour régler ce sujet, qui est un vrai sujet, hein, même si dans les statistiques d'accidents, les accidents graves sont toujours provoqués par des véhicules à moteur. Mais on sait qu'il y a beaucoup de petits incidents, de petits accidents qui sont produits par le choc entre les vélos et les piétons. Donc là, c'est à la fois une question d'aménagement, c'est-à-dire que nous, maintenant, on ne met plus une bande cyclable sur un trottoir. Les cyclistes doivent avoir un aménagement sécurisé, séparé du trafic automobile et du trottoir. Donc ça, c'est un principe qu'on met en œuvre systématiquement. Donc, des bons aménagements. Ensuite, il y a la question de l'information et de la pédagogie. Les cyclistes n'ont pas passé souvent leur code de la route, ne savent pas comment circuler dans des espaces partagés, ont oublié un peu les règles, et donc on lance des campagnes de communication, des spots cinéma. On est en plein dans une campagne de communication qui démarre là-dessus. On met des panneaux pédagogiques pour expliquer comment les cyclistes doivent se comporter. Et puis, troisième axe, les contrôles et la verbalisation, c'est-à-dire que nos policiers municipaux font des opérations et on leur demande de faire des opérations de contrôle du comportement des cyclistes.
J'avais une autre question sur l'usage du vélo et quels sont les objectifs que vous êtes donnés.
Alors, l'usage du vélo à Strasbourg, il se mesure au niveau de la métropole. Hein. Donc, on sait qu'il est beaucoup plus développé dans le centre. Il est moins dans les communes des premières, deuxième couronne. L'objectif, c'est d'arriver au niveau de la métropole à 20% de part modale du vélo, sachant qu'on part de 11%. Donc c'est quand même un très gros développement. On l'atteindra, l'objectif il est pour 2030, donc ça va, je pense, prendre un peu de temps. Mais dans notre programme, dans les programmes de 100 millions d'investissements pour le vélo hein, qu'on fait en termes de pistes cyclables, beaucoup sont consacrés justement aux aménagements intercommunes entre les communes et le centre de Strasbourg, et même en dehors de la métropole. On va connecter la métropole avec le département pour faire en sorte d'aller chercher justement tous les cyclistes potentiels à des échelles de 10-15 km. D'accord. Parce qu'on compte beaucoup sur le développement du vélo assistance électrique, pour lequel on a développé une aide, on a mis en place une aide à l'achat, et sur des distances de 15 km, le vélo assistance électrique est tout à fait pertinent. Et ces politiques-là que nous menons en faveur de la marche sont en fait retranscrites dans un cadre politique qui est un plan piéton. Donc nous en sommes à Strasbourg, nous en sommes au deuxième plan piéton, puisque le premier avait été adopté sur la 2011-2020. Et donc moi, en arrivant en fonction, j'ai fait préparer un deuxième plan piéton 2021-2030 pour maintenir et renforcer cette ambition. Et puis ça nous aide aussi à compter les piétons. Parce que quand on fait un aménagement, quand on se demande quelle surface, quelle largeur on va accorder à tel mode de déplacement, hein, alors on a un axe à aménager, bah, quelle largeur de trottoir, quelle largeur de piste cyclable, qu'est-ce qu'on laisse pour les voitures, on regarde aussi la fréquentation, et sur les piétons, c'est plus difficile à compter. Et donc là, on est en train de recourir à des outils numériques pour compter les piétons dans tel et tel espace.
Strasbourg et le vélo, c'est donc, vous l'aurez compris, une histoire ancienne. Parmi les associations pionnières, on trouve Cadre 67. Pour en savoir plus sur cette structure et ses différentes activités, allons maintenant à la rencontre de son directeur, Fabien Masson.
Donc Fabien Masson, moi je suis directeur du Cadre 67 à Strasbourg. Et en fait, ce n'est pas moi qui ai créé l'association, puisqu'elle a été créée en 1975 par Jean Chaumien, alors qu'à l'époque, il n'y avait aucun aménagement cyclable sur la ville de Strasbourg et sur le Bas-Rhin. Et du coup, c'est Jean Chaumien qui a créé donc l'association avec une poignée de personnes, de militants. Et depuis 1975, donc, l'association fait la promotion du vélo comme moyen de déplacement. Donc, elle touche à tout ce qui touche au vélo, c'est-à-dire le développement, les interventions dans les écoles, les entreprises, le marquage, l'apprentissage du vélo, l'organisation de challenges, tout ce qui touche au vélo, sauf la vente et la réparation.
J'ai entendu parler d'un challenge au niveau des écoles, mais aussi des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors le challenge Au boulot à vélo a été créé en 2009. On fêtera donc il y a 15 ans. En 2024, là. C'est un challenge, en fait. Quand on a regardé au niveau des chiffres les pourcentages de déplacements sur l'Eurométropole de Strasbourg, on s'est aperçu que la plupart des déplacements domicile-travail pesaient entre 3 et 8 km et énormément de ces déplacements étaient faits encore en voiture individuelle. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution un peu sympa pour inciter les salariés des entreprises à essayer le vélo comme moyen de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Et du coup, on a mis en place ce challenge au boulot à vélo pour inciter les salariés des entreprises et se challenger à la fois entre eux et entre entreprises pour effectuer les déplacements domicile-travail. Le départ a été un petit peu difficile puisque le challenge se faisait sur les deux départements Bas-Rhin et Haut-Rhin, donc sur l'Alsace. Et la première année, il y a eu 9 entreprises qui ont participé. Ça a monté tout doucement d'une vingtaine d'entreprises par an. Et puis, en 2015, on a fait le pari de se recentrer uniquement sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et là, du coup, maintenant, on a gagné de plus en plus d'entreprises. Et on était, l'année dernière, donc en 2023, à plus de 800 entreprises ou administrations participantes.
J'imagine qu'il a... que votre association n'a plus du tout la même forme qu'à ses débuts et que vous avez progressivement professionnalisé l'accompagnement au vélo.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que on nous le dit, hein, on nous le dit, l'association a changé. Alors, quand on nous le dit, c'est pas pour dire des choses mal, c'est pas vraiment pour critiquer, mais autant au tout début, dans les années 80, vu qu'il n'y avait pas du tout d'aménagement, l'association avait vraiment un côté revendicatif pour avoir de nouveaux aménagements, pour que les cyclistes aient aussi leur espace de circulation. Et puis, au fur et à mesure des années, même si on garde cet aspect militant au cœur de l'association, les choses ont changé. On ne faut plus voir les choses... il ne faut plus voir les problèmes liés au manque d'aménagement de la même façon. On réfléchit un petit peu autrement. Et du coup, c'est pour ça aussi que notre association s'est développée en proposant des services, parce qu'on s'est dit aussi qu'avoir des aménagements, c'est bien, mais si on ne propose pas les services autour du vélo pour que les gens aient envie de prendre leur vélo, et ben, ça ne fonctionnera pas non plus.
En visitant Strasbourg, ça me donnait l'impression que tout était parfait maintenant, aujourd'hui, à Strasbourg, au niveau du vélo. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement... plus on regarde la politique de déplacement à vélo, plus on est exigeant.
Alors, c'est pas parfait, hein. Loin de là. C'est sûr que quand une personne vient de l'extérieur et qu'elle arrive, souvent en plus à la gare à Strasbourg, il y a énormément de vélos, ça peut faire un choc et on se dit finalement, c'est génial, il y a des pistes cyclables partout, il y a des vélos partout, mais non, c'est bien. On va pas dire qu'il s'est rien fait, on va pas dire que il se passe rien. Non, il y a des choses qui se passent. La seule chose, c'est que quand on a une vision un peu générale sur la pratique du vélo à Strasbourg et quand on voit ce qui se passe dans des communes ou dans des villes en Allemagne ou plus au nord, on se dit qu'il y a encore une marge de progression qui est énorme puisqu'on est à peu près à 20% des déplacements quotidiens à vélo. Si vous prenez des villes comme Copenhague ou des autres villes plus au nord, ils sont à 50% de déplacements à vélo. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un tournant à prendre. Pourquoi? Parce que les aménagements cyclables sur l'Eurométropole de Strasbourg sont vieillissants, ils ne sont pas plus adaptés au flux actuel de vélos. Donc, il faut reprendre de la place sur le domaine public. Là, on essaye de ne pas trop reprendre la place sur les modes actifs et les piétons, donc plus sur les voies de circulation voiture. Donc, des fois, ça peut aussi un petit peu coincer de ce niveau-là. Donc, non, il y a encore beaucoup de choses à faire à Strasbourg et sur l'Eurométropole pour le vélo, mais ce qui est encourageant, c'est que tous les ans, malgré les 20% de part modale de déplacement vélo, on gagne encore des cyclistes, et c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que ces gains de cyclistes touchent toutes les strates de la population?
Alors, si on veut toucher déjà tout le type de population, il faut aller vers les populations. Aujourd'hui, dans les quartiers d'habitat prioritaires, on a une pratique du vélo qui est de l'ordre de 2-3-4% maximum. Quand on est dans l'hypercentre, on est plus autour des 26-27%. Donc, il ne faut pas négliger justement, alors tous ces quartiers prioritaires, c'est une chose, mais il ne faut pas négliger aussi le vélo dès le plus jeune âge, parce que c'est là qu'on va prendre les bonnes résolutions, c'est là qu'on va donner envie aussi aux enfants de circuler à vélo, c'est là qu'on va apprendre aux enfants à circuler à vélo, et du coup, y a le savoir rouler là qui intervient dans les écoles élémentaires pour les CE2, CM1, CM2, c'est une très bonne chose, mais c'est pour ça aussi que on a créé le challenge à l'école à vélo pendant le challenge au boulot à vélo, parce qu'on s'est aperçu aussi que si on avait créé ces deux challenges en même temps, les écoliers qu'on aurait touchés il y a 14 ans, aujourd'hui seraient, pour certains d'entre eux, dans la vie active, et ça serait aussi beaucoup plus simple. Donc, ne pas négliger l'ensemble des populations, hommes, femmes, personnes à revenus modérés, les enfants, les étudiants. Ne pas oublier non plus les personnes à mobilité réduite, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Et aujourd'hui, il y a des vélos qui sont adaptés et qui sont très bien faits. Donc, tout type de personnes est à prendre en compte si on veut vraiment avoir une politique du vélo réussie.
Quels sont un peu les enjeux que vous avez là pour les prochains mois ou pour 2024?
Alors, 2024, je vous ai parlé du savoir rouler à vélo. Il y a de plus en plus de communes veulent essayer de se lancer dans le savoir rouler. Donc, on a un planning qui est quand même bien chargé sur le savoir rouler. On a les 15 ans du challenge au boulot à vélo qui vont arriver et la 7e édition de à l'école à vélo. Donc, c'est pareil, ça. C'est un mois de challenge avec, on va essayer d'arriver à 1000 entreprises ou organisations sur l'Eurométropole, plus de 20 000 personnes. Donc, c'est quand même une course. Un challenge qui dure un mois avec 20 000 personnes, ça fait quand même un petit peu de travail. Et puis, on a toutes les activités à côté avec l'association, toutes les interventions dans les entreprises, toutes les interventions avec l'éducation nationale et au niveau de la CEA et des collèges. On a l'apprentissage du vélo. Donc, les mois à venir vont être très chargés. On se faisait aussi la réflexion l'autre jour avec la présidente. Là, on se disait qu'en fait, il n'y a plus vraiment de saison. Pour le vélo, avant, on se disait avril, mai, juin, septembre, octobre, c'est les saisons un peu chargées, voilà, même les week-ends. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de mi-février à fin novembre, et ben, les plannings sont complets pour tout le monde. Donc, c'est bien parce qu'il y a une demande et c'est bien parce que derrière, ça se voit sur le terrain, il y a de plus en plus de vélos.
La présidente de l'Eurométropole nous avait prévenu. En l'espace de 3 ans, tous ces outils de mobilité cités sont déjà opérationnels. Et de fait, en arrivant à Strasbourg, on ne peut qu'être impressionné par le nombre de solutions proposées pour se déplacer. Afin de mieux comprendre la stratégie mise en place par les élus, nous allons maintenant pouvoir poser quelques questions à Alain Yund, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, en charge des mobilités.
Moi, je suis donc Alain Yund, je suis vice-président de l'Eurométropole, en charge des mobilités, des transports, des déplacements, de la politique cyclable et du plan piéton. La majorité de l'Eurométropole, dès l'été 2020, a décidé de faire des mobilités la priorité du mandat. Ce qui s'est traduit aussi par une mobilisation financière, parce qu'on peut fixer toujours tel ou tel axe comme prioritaire avec un budget de 500 millions d'euros sur le mandat, dont 100 millions sur le réseau cyclable. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on embarque tout le territoire et comment on embarque ce qu'on appelle la première couronne et la deuxième couronne.
Comment on se
finance la mobilité en France. Il y a toujours cette histoire de participation des entreprises.
En termes d'investissement, c'est les collectivités et souvent une participation de l'État qui est de l'ordre de 15-20% les bonnes années. Le reste, c'est les investissements de la collectivité. Mais aujourd'hui, sur le transport, sur les déplacements, une fois qu'on a fait les investissements, il faut payer le fonctionnement. Et c'est là qu'intervient toujours ce qu'on appelle le versement mobilité. Ça équivaut à 2% de la masse salariale de toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Nous nous mobilisons fortement, donc le GART, pour ce qu'on appelle déplafonner ce versement mobilité. Aujourd'hui, il est plafonné à 2%. Nous souhaitons le déplafonner après chaque collectivité pourra faire ce qu'elle veut. Mais donc, il y a toujours cette participation des employeurs au fonctionnement des transports collectifs qui est née dans les années 60-70, ou, mais c'est encore le cas aujourd'hui, où pour permettre, une desserte par les salariés des différentes entreprises, il y avait cette contribution comme elle existe aussi sur le logement.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la stratégie, puisque tout ça qui dit nouveaux services dit aussi des coûts supplémentaires. Est-ce que vous y allez de manière un peu expérimentale? Quelle est un peu la stratégie par rapport à ça?
La première réflexion qui a été la nôtre, c'était de se dire aujourd'hui le défi climatique est tellement important qu'il faut qu'on change de braquet en termes de mobilité. Et donc on est parti sur ce qu'on appelle la révolution des mobilités, hein, sans fausse modestie. Et qui est donc de dire il faut absolument qu'on embarque tout le territoire et qu'on utilise tous les modes de déplacement, la complémentarité des modes de déplacement et donc l'intermodalité en général, avec quelques éléments structurants qui sont le ferroviaire. On a la chance d'avoir 5 lignes ferroviaires qui arrivent sur Strasbourg. Et donc on a, avec le réseau express métropolitain et la région, remis le ferroviaire du quotidien dans la ville. Deuxième volet structurant, c'est le réseau de tram. Le réseau de tram où nous avons décidé dès 2020 d'engager 3 nouvelles lignes de tram. Le troisième étant ce qu'on appelle Chronop, donc un certain nombre de lignes de bus structurantes qui sont prioritaires au feu, qui sont le souvent en voie dédiée, etc. Souvent, le transport en bus, c'est une étoile, hein, en disant, on n'y prête pas trop attention. Pourtant, c'est les bus qui peuvent desservir toutes les communes, tous les quartiers, etc. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle ces lignes Chronop. Il y en a 2-3 qui fonctionnent actuellement. Il y en a 4 qui vont rentrer en fonction dans quelques jours. Donc, c'est le réseau de bus prioritaire. Puis après, il y a le réseau de bus, qui est plus en capillarité dans les communes et dans les quartiers. Donc c'est le troisième niveau. Le quatrième étant effectivement le transport à la demande, donc FlexUp, qui permet de desservir les plus petites communes et qui fait partie du service public de la mobilité. Avec, sur la question de la tarification, la première qui est de dire on est opposé à la gratuité totale des transports collectifs, parce qu'on estime que c'est la tarification solidaire qui est la plus juste. C'est comme l'impôt direct ou la TVA. On pense que c'est ce qu'il y a de plus juste. Et donc, l'abonnement mensuel pour les transports communs va de 3,40 euros par mois à 56 euros par l'employeur. Néanmoins, on a fait, c'est le deuxième élément, la gratuité pour les moins de 18 ans. Depuis 2 ans maintenant, et donc plus de 90% des jeunes de moins de 18 ans ont aujourd'hui leur carte de gratuité. Et ça, on l'a aussi fait pour, dans un but à la fois d'autonomie des jeunes, mais aussi de prendre des habitudes, de régler les questions de sortie scolaire. Voilà, c'est-à-dire donc, ça a été un réel succès.
Et puis à côté de ça, vous avez quand même de la place pour tout ce qui est partage.
Cities, à l'époque, ça s'appelait Autrement, est né il y a 20 ans à Strasbourg, et donc fête cette année son 20e anniversaire. C'est une coopérative, mais moi j'estime que ça fait partie du service public de la mobilité, au sens large du terme. Là où nous intervenons, on ne finance pas cities, mais on leur accorde des places pour l'espace, sur l'espace public. Et d'ailleurs, avec le développement des mobilités, notamment dans les gares, on a demandé à cities d'être présents pas seulement à Strasbourg, au centre de Strasbourg, mais d'être présents sur une grande partie des gares et donc d'offrir aussi cette perspective-là, c'est-à-dire on peut être usager de la voiture sans être propriétaire de la voiture, sachant qu'une voiture cities remplace 8 voitures sur l'espace public. Hein. Donc c'est aussi ça qui, dans les villes, est tout à fait important.
Comment on juge l'efficacité d'une politique de mobilité?
Alors moi je dis toujours, à Strasbourg on a de l'avance sur le retard, hein, sur un certain nombre de choses. C'est vrai que les personnes qui viennent de l'extérieur sont souvent assez subjuguées par l'offre de services. Nos concitoyens n'ont pas la même vision des choses. Mais parce que quand on est habitué à utiliser son vélo tous les jours, on a fait ce matin donc, cette balade inaugurale d'une piste cyclable, elle a coûté quand même assez cher, on a pris de la place à la voiture. Et à la fin, les associations qui se sont dit « bon, maintenant, il faut absolument qu'on continue, ça devient urgent, etc. » Donc, je pense que si on veut avoir une politique cyclable, enfin une politique de mobilité qui réponde à ça, il faut absolument être en phase avec les besoins de tout un chacun. Et j'ai parfois l'impression que plus on avance, plus il y a des attentes.
Est-ce que le numérique, ça peut permettre justement de faciliter ces nouveaux usages?
Alors, de fait, oui. Je pense que c'est un des éléments qui est un peu notre faiblesse, hein, sur lequel on n'a pas... alors, il y a une application pour le train, il y a une application pour le vélo, il y a une application pour Vélop, il y a une application pour la CTS... et c'est vrai que comme l'usage du numérique s'est quand même beaucoup développé, donc ça a permis d'être beaucoup plus efficace pour passer d'un à l'autre. Quand on arrive avec le train, c'est quand le bus, c'est quand le tram, où il va où, etc. On n'a pas encore trouvé, en tout cas je parle pour Strasbourg, de fonctionnalités numériques qui permettent de faire l'ensemblier. Donc on y travaille, notamment avec la région, avec cette petite difficulté supplémentaire, c'est qu'on est en transfrontalier. La SNCF, c'est compliqué. La Deutsche Bahn, on n'arrive pas toujours à traduire. Et donc, c'est une couche supplémentaire dans le numérique, mais qui est indispensable pour faire cette fonction d'ensemble.
Ok. Ben, super.
Ben, écoutez, merci. Ben, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Si au premier abord, il n'est pas vraiment question de numérique lorsque l'on aborde la thématique de la mobilité, nos échanges avec Madame Dupressoir et Monsieur Lund nous ont montré le contraire. En effet, le numérique s'avère être un outil précieux grâce notamment à la gestion des data. Mais qui dit data, dit aussi exposition au cyber-risque. Pour ne pas passer à côté de cette dimension, allons maintenant à la rencontre d'un expert dans le domaine, Gérald Vallée, directeur des ventes chez Orange Cyberdéfense.
Il y a 2 ans, une antenne en cyberdéfense, hein, sur Strasbourg. Enfin, il y a 2 objectifs à ça. Le premier, c'est évidemment d'être plus proche de nos clients, hein, donc de pouvoir amener de la proximité commerciale et technique finalement pour nos clients, qu'ils soient dans le secteur privé ou qu'ils soient secteur public, hein, collectivité territoriale et établissements de santé. Donc ça, c'était vraiment le premier objectif. Et puis le deuxième, c'est on est sur un marché tendu en termes de compétences, et donc l'objectif, c'était aussi de drainer des bassins d'emploi qu'on ne drainait pas jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine de personnes. Donc en 2 ans, en fait, on a densifié les effectifs de manière assez forte, hein, parce que voilà, c'est une vingtaine de collaborateurs forcément, on a des perspectives de recrutement de chaque année, globalement, de faire croître les effectifs de 20-25%. Donc, voilà, l'idée, c'est assez rapidement d'arriver à 25 personnes, 25-30 personnes, globalement, assez rapidement. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie organique, finalement, de la structure. Le deuxième, c'est notre métier, c'est vraiment d'apporter des services et des solutions en matière de cybersécurité. Donc, l'idée, c'est forcément d'accompagner nos clients, hein, qui soient encore une fois entreprises privées ou publiques, à rehausser leur niveau finalement de protection face aux risques cyber, Et donc, ça veut dire les accompagner, j'allais dire, dans l'identification de leurs risques, dans l'organisation à mettre en œuvre, dans la sensibilisation face à ce risque-là, et puis forcément en étant à même, en tous les cas, de les aider à mieux se protéger. Ça veut dire mettre en place des solutions technologiques permettant de rehausser le niveau de sécurité. Ça veut dire aussi mener la surveillance, finalement, au sein de leur système d'information pour vérifier globalement qu'il n'y ait pas d'attaquants, ou en tous les cas, qu'ils ne sont pas, entre guillemets, sous la menace d'une attaque. Et enfin, un dernier aspect, c'est aussi d'accompagner nos clients aussi face à une situation de crise, ce qui peut évidemment arriver, hein, une entreprise, entre guillemets, ou une collectivité qui aurait été touchée par une cyberattaque, c'est forcément d'être là, en tous les cas, pour les accompagner à remédier le plus rapidement possible.
Est-ce que pour vous, il y a aussi des enjeux de cyber, de protection sur cette thématique de la mobilité?
Tout l'environnement numérique aujourd'hui est concerné en tous les cas par les risques de cybersécurité. Ça, c'est un point important. Et donc, si je prends un exemple, louer des vélos, par exemple, mais forcément, ça signifie globalement qu'au travers de ce type d'application, potentiellement, on peut avoir accès à des données personnelles. Un individu lambda, globalement, qui louerait un vélo, et forcément va renseigner en tous les cas ses données personnelles au sein de l'application. Évidemment que si un attaquant accède à ce type d'information, ça met à risque, entre guillemets, forcément sur la confidentialité de l'information. Et puis derrière, en fait, il y a des aspects réglementaires. Au travers des données personnelles, évidemment, chaque entreprise ou collectivité est soumise au règlement général de la protection des données. Il y a des enjeux, en tous les cas, de conformité à la réglementation et potentiellement avec des amendes à la clé en cas de non-respect. D'une manière générale, tout ce qui touche au numérique aujourd'hui est forcément à risque d'un point de vue cybersécurité.
Très bien, un grand merci pour le temps que vous avez consacré.
Avec la mise en place des zones à faible émission, bien connues maintenant sous l'acronyme de ZFE, proposer des alternatives concrètes à la voiture individuelle est une étape essentielle. Et pour ne laisser personne sur le côté de la route, sans mauvais jeu de mots, il faut aussi un accompagnement humain. Et c'est une des missions justement de l'Agence du Climat. Direction maintenant le 2 avenue de la Forêt Noire, où nous attend son directeur, M. Emmanuel Rivière.
Premier étage.
Bonjour.
Valentin.
Enchanté.
À l'Agence du Climat, donc on a pas mal d'activités en mobilité décarbonée, en rénovation énergétique des bâtiments, en végétalisation. Mais la mobilité, c'est un gros pavé de l'activité. Donc on est organisé autour d'un accueil et c'est Lauriane qui assure l'accueil principal.
On reçoit du coup énormément d'appels au niveau du standard général. 90% d'appels sont sur la mobilité. C'est en moyenne par semaine 250 appels qu'on traite sur le standard de l'agence. L'idée, c'est de, dans un premier temps, donc, voir quelle est leur situation, les renseigner dans un premier temps également sur les dispositifs d'aide qui sont en place, voir s'ils sont éligibles ou pas, planifier un rendez-vous quand ça s'impose parce que la personne aura besoin de mobiliser les aides de l'Eurométropole de Strasbourg. S'ils ne sont pas éligibles à cette aide-là pour X ou Y raison, parce qu'ils n'habitent pas sur l'Eurométropole ou autre, on les renseigne aussi sur les aides de l'État. D'accord. On les redirige au mieux sur les plateformes sur lesquelles ils auront besoin de déposer des dossiers.
Eh bien, merci. C'est très clair.
Avec grand plaisir.
Okay. Et la majorité des rendez-vous sont plutôt en présentiel.
Oui, de plus en plus.
Voilà. Donc les gens...
Ils aiment le contact.
Oui.
Ils aiment avoir quelqu'un en face d'eux.
Voilà. D'accord.
Mais c'est pas rien de le dire. C'est une réalité, quoi. Quand on est un peu dans un maquis des aides, c'est compliqué.
Si vous deviez définir du coup, l'agence...
Alors, le sous-titre de l'Agence du Climat, c'est Agence du Climat, le guichet des solutions.
D'accord.
Et donc, on se vit vraiment comme un guichet des solutions. Nous, on est dans le code de l'énergie aussi. Il y a 40 ALEC en France. La mobilité décarbonée, autant que nous, il n'y en a pas d'autres. Mais dans le code de l'énergie, il est écrit que des agences locales de l'énergie et du climat peuvent être créées par les collectivités territoriales pour porter des dispositifs concourant aux objectifs des politiques publiques. Donc on a aussi un rôle qui est un peu institutionnel.
Et donc c'est assez récent, du coup,
le premier employé est arrivé le 1er octobre 2021.
Ok.
Mais la plupart des ALEC, les plus anciennes, se sont créées dans les années 90, essentiellement sur des enjeux d'énergie dans le bâtiment.
Ok.
Pas du tout sur des enjeux de mobilité. Aujourd'hui, quelques ALEC commencent à diversifier leurs activités, parce que quand on prend un plan climat, si on veut travailler sur les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, Il y a plusieurs secteurs émetteurs. On va parler de l'agriculture, de l'industrie, des bâtiments, de la mobilité. Mais les deux plus grands secteurs sur lesquels il faut agir, c'est quand même la mobilité et l'énergie dans les bâtiments. Donc, un bureau mobilité décarboné.
Donc, c'est nous qui organisons les rendez-vous avec des particuliers ou des professionnels pour discuter de leurs projets de changement de mobilité. La plupart du temps, c'est des personnes qui cherchent à remplacer leur voiture dans le contexte de zone à faible émission qui est dans l'Eurométropole. Mais il y a aussi donc des projets d'ouverture de compte mobilité pour passer sur plutôt des mobilités douces comme vélo électrique, vélo classique, transport en commun, etc.
Ce passage à la ZFE, est-ce que vous sentez que c'est perçu avec beaucoup d'appréhension par les habitants ou pas plus que ça?
C'est quelque chose qui est en place depuis maintenant plus d'un an. Donc là, actuellement, ils sont un peu plus résolus, donc ils savent qu'ils vont devoir changer de voiture. Au début, il y avait un peu plus de mécontentement, a priori, mais ça commence à être accepté.
Les conseillers les plus anciens, c'est-à-dire très anciens, qui sont arrivés début 2022, disent qu'effectivement, l'acceptabilité était beaucoup moins évidente en 2022. Il y avait une incompréhension de cette zone à faible émission. On n'avait pas encore déployé beaucoup de pédagogie. Et donc, on faisait souvent face à des appels téléphoniques de gens qui étaient insatisfaits, désagréables, voire agressif et très ponctuellement menaçant. Ça, c'est des situations auxquelles on ne fait presque plus face. Même en seconde couronne, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour les particules sont dépassées. Donc les 33 communes sont concernées.
La France fait face à une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne pour excès de dioxyde d'azote sur certains territoires, dont l'Eurométropole de Strasbourg. On a plus de 80% des émissions qui viennent du trafic routier. Donc on ne peut pas gérer ce contentieux européen, cette condamnation par la Cour de justice, ces enjeux sanitaires, tout simplement, si on ne travaille pas sur le transport routier. On touche très rapidement au mode de vie, parce que c'est des polluants qui ne sont pas liés uniquement à quelques grandes sources industrielles comme on avait pour le dioxyde de soufre dans les années 60, 70 et même avant, où vous preniez les 10 plus grands émetteurs sur un territoire, vous mettiez une installation de dépollution dessus, et vous aviez réglé 80% de votre problème. Là, quand on parle de dioxyde d'azote ou de dioxyde de carbone, parce que le transport routier, c'est aussi le secteur émetteur numéro 1 des gaz à effet de serre, vous parlez de chacun d'entre nous dans sa vie de tous les jours. Et là, la gestion n'est pas du tout la même. On parle d'aménagement du territoire, on parle de mode de vie, on parle presque d'envie et de culture, je dirais. Aujourd'hui, la voiture reste pour beaucoup de personnes un marqueur social. Moi, je trouve ça très triste, mais c'est encore une réalité. Une partie de notre boulot, c'est d'encourager les gens à être très fiers de leur vélo, plus fiers de leur beau vélo que de leur belle voiture. Et puis, on est aussi dans des contraintes financières. C'est facile de dire la voiture est le premier émetteur, il faut... vous avez quand même des gens aujourd'hui, renouveler une voiture par une voiture moins polluante. Les électriques sont moins polluantes à l'usage. C'est cher, donc il faut des aides. Comme on dit, il faut absolument rénover l'habitat parce que c'est le grand secteur consommateur d'énergie. Oui, d'accord, mais ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Mmh. Et c'est là où les pouvoirs publics arrivent avec des dispositifs d'aide qui sont massifs pour certains. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, quand vous cumulez les aides de l'État et de l'Eurométropole pour remplacer un véhicule très polluant, par exemple, par un petit électrique, vous pouvez avoir, si vous êtes dans les strates de revenus les plus modestes, vous pouvez avoir 20 000 euros d'aide. Si vous remplacez par un véhicule essence commercialisé après 2011, donc ce n'est pas une voiture neuve, un véhicule essence commercialisé après 2011, vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 euros, 11 000 euros d'aide. Donc c'est quand même des aides qui sont très importantes. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup d'aides, il ne reste pas un reste à charge. Et un reste à charge de quelques milliers d'euros pour un ménage très modeste, ça peut être insupportable. Et après, on a donc des partenariats avec des organismes qui font du microcrédit, vers qui on peut guider ces ménages-là, donc qui peuvent bénéficier de ce microcrédit. Quand on parle de rénovation énergétique, on n'est pas forcément sur du microcrédit, mais l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, où là, vous pouvez emprunter jusqu'à 50 000 euros à taux zéro pour votre rénovation. Et donc, vous allez... financer vos mensualités de remboursement de votre éco-prêt à taux zéro par le différentiel de facture que vous aurez eu entre avant les travaux de rénovation, après les travaux de rénovation, avec une facture énergétique beaucoup plus faible.
Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir accès à des données importantes? Est-ce que, par exemple, vous savez sur votre territoire combien il y a de véhicules diesel, combien il y a de véhicules essence?
On sait que sur l'Eurométropole de Strasbourg, des critères 5, donc il y a un peu plus d'un an, des critères 5, il en restait à peu près 3070 en circulation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les véhicules qui sont interdits, et des 100 critères, il y en a à peu près 5000. Donc ça veut dire que les véhicules interdits à la circulation aujourd'hui sur Eurométropole de Strasbourg, il en reste moins de 8000, puisque depuis le 1er janvier 2002, il y a encore eu un renouvellement relativement important qui s'est fait. Et là, au 1er janvier 2024, les critères 4 vont devenir interdits à la circulation. Et là, on commence à attaquer le gros du paquet.
Ouais.
On commence à attaquer le gros du paquet. Après, il ne faut pas s'attacher uniquement au renouvellement de véhicules, parce que le but du jeu, enfin, pour autant qu'on puisse parler de jeu, c'est aussi de diminuer le trafic routier en allant vers des alternatives. Et on voit que sur un territoire comme l'Eurométropole de Strasbourg, sur les dernières enquêtes ménage-déplacement qui ont été conduites au cours des dernières décennies, on a déjà une très forte baisse de la part des véhicules routiers dans les mobilités. D'accord. Donc là où en 1997, on était à plus de 50% du nombre de déplacements qui se faisaient en voiture, en 2019, on était déjà tombé à 37%. C'est 16 points de différence. Et donc, c'est là où l'équipe de l'Agence du climat intervient pour essayer de guider les gens aussi vers le compte mobilité de l'Eurométropole de Strasbourg. Le compte mobilité, c'est un porte-monnaie numérique qui peut être abondé jusqu'à 2500 euros sous condition de ressources par l'Eurométropole. Et ces 2500 euros sont utilisables pour du transport en commun, pour compléter l'achat d'un vélo à assistance électrique ou pour prendre un abonnement Cities pour faire de l'autopartage. Donc là, vous abandonnez le véhicule sur lequel vous interrogez. Et donc, en termes de chiffres, donc 6% aujourd'hui rentrent dans les aides pour abandonner la voiture. On a à peu près 15% des ménages qui sortent de l'Agence du climat qui souhaitent passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Et le reste qui va sur du thermique critère 1, c'est-à-dire un véhicule essence, dont la première commercialisation est postérieure à 2011. On a à peu près un tiers des ménages qui viennent nous voir qui ont un revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 500 euros. Un gros tiers. Et c'est ces ménages-là, nous, qu'on veut ne pas rater, parce que c'est pour ces ménages que ça peut être le plus délicat d'investir dans un nouveau véhicule. Et on a des statistiques par quartier, et on s'est rendu compte que sur certains quartiers prioritaires pour la politique de la ville, on n'était pas du tout appelé. Mais quand je dis pas du tout appelé, c'est un quartier entier avec des milliers d'habitants, zéro appel. Et c'est pas vrai que sur ces quartiers-là, il n'y a pas des véhicules anciens qui sont en interdiction de circuler. Et donc, on a conduit des actions d'aller vers. Donc là, on n'attend pas les appels, mais on va vers. Et donc, on a demandé à une association qui s'appelle Voisin Man sur le quartier de l'Elzo de faire du porte-à-porte. On a vu sur l'Elzo, progressivement, une montée assez forte du nombre de personnes qui nous contactaient.
Et les jeunes dans tout ça ? L'exemple du défi à l'école à vélo, dont nous a parlé tout à l'heure Fabien Masson, nous montre que ce territoire a à cœur de former très tôt ces jeunes générations aux bons gestes. Or, dans ce domaine, justement, un autre acteur est essentiel. Il s'agit du vaisseau. Raphaël Schellenberger, député et élu en charge de la culture au sein de la collectivité européenne d'Alsace, va nous servir de guide pour découvrir l'exposition Colibri, semons les graines de l'engagement, visible au vaisseau jusqu'à la mi-janvier.
Alors ici, on est au vaisseau, qui est un établissement de culture scientifique, technique, et on aime bien préciser, et industriel de la collectivité européenne d'Alsace, qui a été construit il y a une vingtaine d'années par le Conseil général du Bas-Rhin, et qui a pour objet de s'adresser aux jeunes publics, aux enfants, aux préadolescents prioritairement, sur tous les enjeux d'éducation aux sciences, d'éducation au savoir, d'éducation aux faits, d'éducation également aux enjeux de société sous l'angle scientifique. Puis on a une exposition temporaire dans laquelle on se trouve qui s'appelle Colibri et qui a pour objet de susciter la curiosité sur les questions environnementales et surtout sur les actions que chacun peut mener sur la question de l'eau, sur la question des déchets, sur la question... qui touche à l'environnement et la protection de l'environnement.
Dans les matériaux, il y avait l'idée du coup de pouvoir être aussi sobre. Est-ce que c'est aussi un enjeu, d'autant plus sur une exposition comme Colibri, d'avoir une exposition qui finalement ne va pas partir à la poubelle après ?
Alors l'exposition comme Colibri, elle a été pensée pour être une exposition ensuite qui pourrait être itinérante. C'est-à-dire que c'est une exposition temporaire, elle est là pour l'année, puis elle changera ensuite, on abordera ensuite une autre thématique. C'est ce qui permet aussi de créer du flux dans l'établissement. Mais elle n'a pas vocation à être démontée et rangée dans un hangar de stockage, mais bien à circuler en Alsace, où elle peut circuler en France. On peut la prêter à d'autres collectivités qui seraient intéressées par cela.
Est-ce qu'on peut avancer un peu pour voir ce qu'on y découvre? Il y a différentes parties, j'imagine.
Là, par exemple, vous avez une expérience où, en déclenchant des boutons, on peut comparer les besoins énergétiques pour se déplacer, voilà, en se déplaçant à pied, en se déplaçant en trottinette, à vélo ou en voiture individuelle ou en train, combien on consomme d'énergie au kilomètre parcouru. Voilà, des questions qui permettent de mettre en échelle de valeur ce que les enfants entendent. Les enfants, ils sont connectés au débat politique qui existe, mais là, on est dans l'expérimentation et la découverte concrète. Et alors là, c'est une expérience assez sympathique.
Il faut qu'on vous décrive.
On a un gros monstre au milieu qui a beaucoup de déchets en bouche, de poilus bleus avec un nez rouge, et de part et d'autre, trois poubelles. Les cartons, les plastiques, l'aluminium, les ordures ménagères, le verre, le compost. Et en fait, c'est une course contre la montre. Dans un temps donné, il faut trier le maximum de déchets au bon endroit. Quand on démarre l'expérience, on a 2 minutes pour trier un maximum de déchets. Donc, c'est des avatars sur lesquels il y a, vous voyez, un sachet de chips, un sachet de compote liquide. Et donc, il faut que les enfants, les jeunes, les mettent dans la bonne poubelle. Et puis, ils auront un score à la fin.
Ce que je trouve très intéressant dans votre exposition, c'est qu'en fait, on y voit peut-être un peu plus clair sur l'impact de notre quotidien. Ouais. Là, une partie, donc à la sortie, j'ai vu qu'il y avait une sorte de tringue avec une sorte de marque-page.
C'est là-dessus que se conclut l'exposition. C'est finalement, vous avez vu à travers cette exposition que chacun peut faire quelque chose. Et donc, les enfants sont invités à choisir un marque-page d'une couleur qui colore un petit peu la nature de l'engagement, à marquer leur nom et à l'accrocher, et constitue comme ça une forme de fresque de dynamique de l'engagement de cette nouvelle génération.
Pour en savoir plus maintenant sur la genèse et le fonctionnement au quotidien du vaisseau, nous avons maintenant rendez-vous avec Sabine Ischia, directrice de l'établissement et présidente du conseil d'administration de l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle.
Les enfants, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est un établissement qui est conçu, on va dire, pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 12, 15 ans. Et nous, ce qu'on a envie qu'ils fassent, c'est qu'ils apprennent un petit peu les sciences en s'amusant. Alors, science, ça fait parfois un petit peu peur, mais on a des manipulations qui sont ergonomiques, au travers du jeu, on passe des messages, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment que l'enfant bouge et touche, essaye, recommence. S'il n'arrive pas du premier coup, c'est pas grave. On remet ça, enfin, notre objectif c'est vraiment ça. Au départ, les élus qui ont lancé ce projet ont cru dans le projet, mais n'avaient absolument aucune idée de sa durabilité. Donc d'emblée, effectivement, il y a eu des zones, des thématiques, le chantier, la zone de l'eau pour les petits. Il y a eu beaucoup de modifications, il y avait quelque chose autour du son. Donc cet établissement évolue aussi en fonction, on va dire, de l'évolution des jeunes dans notre société, et on aborde aussi des thématiques qui ont une durée de vie, on va dire, à peu près de 7 à 10 ans, grand maximum, puisqu'après, l'enfant change, il évolue, même s'il a 8 ans, l'enfant de 8 ans en 2005, quand le vaisseau a ouvert, et l'enfant de 8 ans aujourd'hui en 2023, c'est plus le même, les centres d'intérêt sont plus les mêmes.
Quelles sont les thématiques, qui sont les domaines, les problématiques qui sont traité en ce moment?
On a une thématique, effectivement, je vais peut-être commencer avec les tout-petits, puisque c'est un espace qu'on a entièrement fermé et qu'on réserve vraiment aux enfants de 3, on va dire à 5 ans, 6 ans, c'est vraiment la limite, pour qu'ils puissent effectivement apprendre à se socialiser, pour nous c'est important, et pour que l'enfant puisse aussi, on va dire, un petit peu s'autonomiser en termes d'appréhension motricienne, le langage, le son, enfin l'éveil des sens, donc on a vraiment cet espace-là qui est dédié vraiment vraiment tout petit. Puis après, on a effectivement une zone qui va traiter plus de la logique des mathématiques, mais il ne faut pas en avoir peur parce que tout se fait au travers de jeux, au travers de petits casse-têtes ludiques, intéressants. On va appréhender aussi le phénomène un petit peu physique de la lumière. C'est quoi la lumière? De quoi est composée la lumière? Les couleurs de l'arc-en-ciel, mais là encore, au travers de différentes manipulations. On a un petit peu l'eau. Alors l'eau, c'est effectivement quelque chose d'ancien. Dès le départ, on a eu cette fameuse zone de l'eau, mais là, on appréhende aussi, on va dire un petit peu, ben c'est quoi, voilà, comment fonctionne un vortex, c'est quoi la puissance, la poussée d'Archimède. Ensuite, on a une zone un petit peu pour les plus grands, hein, qui est effectivement celle autour de l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui s'appelle la fabrique, qui est là, effectivement, une zone, on va dire, un petit peu plus industrielle, où l'enfant va apprendre à programmer. Donc, on a des robots, effectivement, industriels mis à disposition, et puis plusieurs petits jeux ludiques aussi, voilà. On peut essayer de se mettre en concurrence avec un robot qui s'appelle Miro. Et puis, si on se débrouille bien, on bat le robot. Il ne sera pas content, mais on le bat. Voilà.
Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'équipe qui est à vos côtés?
Au niveau des équipes, pour concevoir les expositions, on a ce qu'on appelle des muséographes. Donc, ça, ce sont effectivement des personnes qui sont dans la conception, qui travaillent toujours en lien avec les scénographes et avec des designers de service. Là, on a une designeuse de service, on a bien sûr un service de graphique aussi, on a bien sûr un service de communication, et à côté de ça, on a les médiations, donc une équipe de médiation qui, eux, en fonction de ce qu'on va proposer comme manipulation, peuvent, eux, imaginer, on va dire, une médiation. On est bien sûr toujours en lien avec des chercheurs, des chercheuses, hein, par exemple la fabrique, on l'a montée avec deux chercheurs de l'université de Strasbourg et du CNRS qui nous valident. On fait toujours valider en fait scientifiquement ce qu'on propose. Donc, on a un membre aussi de l'éducation nationale qui nous est dédié, avec qui on monte effectivement tous nos programmes pour les scolaires. On a nos services de techniciens, on a un laboratoire un petit peu technique, hein, qui est le laboratoire de conception. Donc, c'est eux qui vont concevoir les manips. On les fait tester, on a un groupe d'enfants testeurs. Tout est géré en interne. Donc, c'est un petit peu une fierté, c'est un petit peu l'évolution aussi de cet établissement qui a ouvert en 2005. Et voilà, donc en 2023, maintenant, on est jeune adulte, donc on est en capacité maintenant d'être en autonomie et de proposer des choses.
Mais abordons maintenant un autre sujet lié à la mobilité, celui de l'inclusion numérique. En effet, si le métier de conseiller numérique vous est familier, chère auditrice et chers auditeurs fidèles de Parole d'Élu, vous ignoriez sans doute qu'il existe à Strasbourg des conseillers numériques qui sont justement spécialisés sur la mobilité. Pour en savoir plus, direction donc maintenant le Shadoc, la fabrique du numérique durable, pour poser toutes nos questions à Sam, conseillère numérique mobilité.
Merci mes chers intervenants. Vas-y Anastasia, on t'écoute.
Un mini truc, parce que je tiens vraiment à le dire, parce que ça fait 2 ans du coup que j'interviens dans différentes écoles, et je vois vraiment la différence au niveau des compétences informatiques et bureautiques avec ceux qui jouent. Les élèves qui ne jouent pas, je galère. Je galère à les faire rattraper le niveau. Il y en a qui ne savent pas copier-coller en étant en post-bac, ce n'est pas possible. Donc du coup, c'est hyper dur. Et franchement, je vois vraiment la différence. Il y a ceux qui ont le plus l'habitude, ils ont juste une tablette et un téléphone, ils sont que sur du tactile, je les mets sur un PC, ils sont finis. Donc c'est vraiment, vraiment la grande différence. C'est que les gamers, ils savent se servir d'un ordinateur. Et pour moi, ça, en école de design ou en école de motion ou autre, on voit vraiment la différence. Voilà.
Merci, merci à tous. C'est super de
vous entendre.
Bonjour Sam, ça va?
Oui, ça va.
Donc, c'est un festival sur le gaming?
Non,
pas du tout.
C'est le NEC local.
Oui.
Et du coup, c'est une déclinaison en fait, du NEC national et la
donc,
thématique.
Numérique
c'est...
en commun?
Oui, numérique en commun. Enfin, comment on peut utiliser le jeu vidéo dans la médiation?
D'accord, ok. Est-ce que c'est possible de te présenter et puis de me dire en quelques mots, toi, ta définition d'un conseiller numérique?
Je suis Sanferhomme Sam Danzer et je suis conseillère numérique coordinatrice pour l'Eurométropole de Strasbourg. Dans ce cadre-là, en fait, j'anime des ateliers collectifs et des accompagnements individuels pour des personnes qui sont éloignées du numérique ou pas, parce que avec l'évolution des technologies, on peut tous être confrontés à un moment donné à une problématique liée au numérique. Et pour moi, en fait, le conseiller numérique, il peut toucher à pas mal de thématiques, mais en tout cas, il est là pour accompagner les citoyens vers une compréhension de l'usage et surtout des enjeux. On n'est pas obligé d'être technicien pour se faire une idée ou avoir un esprit critique par rapport à l'usage des technologies.
Alors ce soir, on est au Shadok. On s'est rencontrés hier, c'était du coup dans un autre endroit, c'était l'agence du climat. Et j'étais assez surpris de voir qu'il y avait une spécificité de ton intervention qui était du coup sur la mobilité.
Eh ben, c'est parce que mes collègues de la direction de la mobilité et de l'agence du climat ont intégré très tôt dans leur réflexion, lorsqu'ils ont lancé la plateforme numérique de dépôt de demande de primes à la conversion, qui est spécifique au territoire donc de l'Eurométropole, ils ont intégré l'accompagnement aux usagers. Et c'est comme ça qu'ils ont pris contact avec moi et qu'on a convenu ensemble d'une formation des conseillers numériques à cette démarche en ligne et aussi de mener des actions en fait, directement à l'Agence du climat pour proposer ce type d'accompagnement.
Est-ce que les personnes viennent d'elles-mêmes te voir ?
Elles passent d'abord forcément par le conseiller en mobilité, qui lui détecte ou pas une problématique numérique. Et c'est dans ce cadre-là en fait, qu'ils prennent rendez-vous, un second rendez-vous avec moi ou mon collègue à l'Agence du climat, où on a aussi en fait, des permanences numériques qui sont hebdomadaires sur l'ensemble de l'Eurométropole, qui sont animées par des médiateurs et des médiatrices numériques, et pas forcément ceux de l'Eurométropole, mais il y en a d'autres. Et du coup, ils peuvent aussi être réorientés vers ces permanences-là.
Est-ce que ton rôle, c'est de former ou de faire à côté d'eux ? Est-ce que tu fais à la place ?
Alors, ce n'est pas politiquement correct, mais oui, je fais à la place. Je pense que ce n'est pas toujours un manque de compétences numériques. Par contre, c'est peut-être un manque de compétences du langage administratif ou ressenti par rapport à ce que ça représente les démarches.
On est tous phobiques au niveau administratif.
Ouais, un petit peu, je pense. Enfin, j'ai jamais entendu personne me dire « Ah, mais je viens pour me former parce que comme ça, je serai plus à l'aise pour faire mes démarches en ligne ». Ça n'existe pas, en fait. C'est vrai que mes collègues, quand même, ça, c'était vraiment un chouette partenariat, mes collègues de la direction de la mobilité et de l'agence du climat, parce qu'ils sont venus nous voir avant la mise en place de cette... ou pendant, en tout cas, mais ils nous ont associés très tôt à la mise en place de cette plateforme. Et donc, du coup, on fait des permanences là-bas depuis octobre 2022.
Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur ce lieu, le Shadok ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une association à la base ?
Alors, le Shadok, c'est un tiers-lieu d'éducation numérique. Il a été créé en 2015, mais il a vécu déjà plusieurs phases de sa vie. Au tout début, c'était un lieu plus dédié à la culture numérique, art et culture numérique. Et il y a 2 ans, il y a eu un gros travail de concertation. Et on est sorti que ça serait bien d'avoir un lieu ressource sur le territoire qui soit ouvert autant au grand public qu'aux professionnels pour qu'ils puissent venir y chercher des solutions ou des ressources.
Donc on y trouve des salariés et des associations qui utilisent le lieu ?
Oui, tout à fait. Tous les ateliers sont animés par des associations qui font des activités en lien avec le numérique, que ce soit de la musique assistée par ordinateur, par la Longevity Music School, il y a des ateliers de robotique par la Cybergrange, il y a des ateliers sur les usages du quotidien par les Mice Connect, des permanences numériques, il y a des ateliers parentalité et numérique par les conseillers numériques de l'Eurométropole. Enfin, c'est hyper large.
Donc ça brasse beaucoup de gens, en fait.
Oui.
Il est presque temps pour nous de conclure ce 4e épisode de Vendredi ou la vie durable. Mais avant de nous dire au revoir, nous avons rendez-vous avec le président d'une toute jeune collectivité. Je veux parler bien évidemment de la collectivité européenne d'Alsace. Lors des dernières assises des départements de France qui se sont tenues à Strasbourg les 9 et 10 novembre dernier, nous avons pu interroger Frédéric Bierry sur les enjeux de mobilité pour cette collectivité, née de la fusion de 2 anciens départements, ceux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et qui gère notamment aujourd'hui plus de 6200 km de routes départementales.
80% des mobilités se font sur nos routes. Nous gérons 6400 km de routes. Nous avons récupéré les routes nationales. Nous avons en Alsace près de 5000 km de pistes cyclables. Et nous avons une stratégie autour des circulations douces de longue date. Donc forcément, les mobilités, c'est quelque chose de fondamental pour nous. On va être aussi dans l'accompagnement du fret ferroviaire, des ports. Donc bien évidemment, la collectivité est très engagée sur ces questions-là. Parking de covoiturage aussi, travail contre l'autosolisme. Aujourd'hui, on voit bien que la réserve capacitaire, elle est dans les voitures et sur les routes, mais sous réserve d'une pratique de la route différente de ce qu'on a pu faire par le passé. Je suis aussi très fier qu'on ait eu un prix de la biodiversité autour des routes qui nous a été décerné, parce que notre enjeu aussi, c'est de préserver notre environnement. Tout le travail que nous pouvons mener autour d'une écologie de la route, c'est aussi quelque chose qui nous est particulièrement précieux. Ça peut être à la fois sur le traitement de la route elle-même, mais aussi et surtout des abords des routes, notre capacité à mettre des arbustes autour de préserver en fait la biodiversité autour des routes. On a toute une démarche globale. Par exemple, là, on va utiliser les restes d'arbustes qui vont être coupés pour préserver bien évidemment la route. On va l'utiliser comme paillis pour l'économie agricole, la production d'arbres fruitiers pour les agriculteurs de montagne. Donc on a toute une série d'actions, si vous voulez, autour des enjeux environnementaux autour de la route, et on en est très fiers.
Cet épisode de Vendredi ou la vie durable touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. Un immense merci à toutes les personnes qui m'ont consacré un peu de leur temps pour répondre à mes questions. Je pense bien évidemment à Madame Pia Imps, présidente de l'Eurométropole, à Madame Dupressoir, conseillère municipale déléguée à la ville marchable et cyclable, à Alain Youn, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de mobilité, à Fabien Masson, de Cadre 67, à Gérald Vallée, de chez Orange Cyberdéfense, à Emmanuel Rivière et à toute l'équipe de l'Agence du Climat pour leur accueil chaleureux, à Sam, conseillère numérique mobilité, à Sabine Ischia, directrice du vaisseau, à Raphaël Schoenberger, député élu en charge de la culture au sein de la collectivité européenne d'Alsace, et à Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Merci enfin à Sophie Cambra, conseillère communication à l'Eurométropole de Strasbourg, une attachée de presse dynamique et à l'esprit d'initiative, ainsi qu'à toute son équipe pour leurs précieux conseils et le temps passé en amont des interviews. À quelques jours de Noël, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et à vous donner rendez-vous fin janvier pour un nouvel épisode de Vendredi ou la vie durable, avec bien évidemment plein de bonnes résolutions à tenir en 2024 pour la planète. À bientôt !